Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, voici le titre de votre journal. Eddy Kapende, c'est quoi accusé dans l'affaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, ancien chef de l'État, ont quitté la prison centrale de Makala ce vendredi à la suite de la grâce présidentielle leur accordée. La cérémonie a été présidée par le ministre intérimaire de la Justice. Situation sécuritaire volatile à Lengabo au sud de la ville de Bounia en Ituri. Des détonations d'armes étaient toujours entendues ce vendredi matin à la suite des affrontements entre les FRDC et les miliciens des FPIC. Selon l'armée, 3 d'entre ces miliciens ont été neutralisés et 6 autres capturés. Maurice Abibou Sakapé, la vice-gouverneur de la Tchopo, sera avec nous avant la fin de ce journal. Il nous parle de la mise en place dans la province d'une brigade provinciale d'assainissement dénommée Union Sacrée d'Assainissement. Une initiative lancée officiellement le mercredi dernier. Il est notre invité. Bienvenue à toutes et à tous et merci de suivre ce journal de Radio Kapi que vous présente Pierrot et la Mégie. Jean-Noël Mokondo assure la mise en onde. Grâce présidentielle accordée aux prisonniers impliqués dans l'affaire assassinat de Laurent Désiré Kabila, ancien chef de l'État. Eddy Kapende et ses co-accusés ont quitté la prison centrale de Makala ce vendredi 8 janvier ici à Kinshasa. La cérémonie a été présidée par le ministre intérimaire de la Justice. Témoin de l'événement, Paul Matendo.
Ambiance de joie à la prison centrale de Makala peu avant que Eddy Kapende ne quitte la prison sous le coup de 12h25. Parmi ses co-accusés, plusieurs autres officiers militaires. Emmanuel Ndongo, capitaine de son état, dit sa gratitude au président de la République.
Je rends hommage au chef de l'État qui vient de réparer une injustice. Que Dieu lui apporte sans cesse intelligence afin de conduire le peuple congolais à son vrai bonheur.
Pour un autre gracié, Félix-Antoine Tshisekedi vient par ses gestes d'essuyer ses larmes.
Et il a décidé d'essuyer les larmes de nos familles. Nous pouvons maintenant parler à nos familles librement et les embrasser. Ils nous ont beaucoup manqué.
L'émotion était également au rendez-vous.
Félix Tshisekedi, il faut les remercier beaucoup. Il nous a beaucoup aidés dans la vie.
Pour impunité zéro, une ONG des droits de l'homme, cette mesure de grâce traduit la mise en pratique des doléances des activistes des droits de l'homme. Grâce Tunja.
Aujourd'hui, le chef de l'État a écouté la voix de ceux qui luttent pour l'État de droit. Aujourd'hui, grande est ma satisfaction.
Eddy Kapende et ses co-accusés ont passé 20 ans à la prison centrale de Makala.
Merci Paul Matendo pour ce reportage. Au Kasaï Central, le centre de réflexion, d'initiation politique et d'encadrement pour le développement et défense des droits humains, CRIPED, déplore le régime de gouverneur intérimaire. Dans un communiqué de presse publié ce jeudi, son directeur exécutif estime que ce type de régime casse l'élan du développement de la province car les intérimaires détiennent un pouvoir limité. William André Kabassé les propose quelques pistes pour mettre fin à cette pratique et privilégier les décollages de la province. Il est au micro d'André Kambalamoujanaï.
La province connaît 2 gouverneurs intérimaires et le programme d'action en souffre et la province fait du surplace. De toutes les provinces concernées par la déchéance des gouvernements provinciaux, il n'y a que le Kasaï central où l'intérim a été organisé par le ministère de l'Intérieur. Eu égard à ce qui précède, le CRIPED DDH recommande 1. La célérité dans le traitement et la conclusion du dossier Kabuya par la Cour constitutionnelle en vue soit de son retour, soit de l'organisation d'un nouveau scrutin afin de doter la province du Kasaï central d'un nouveau gouvernement avec à la tête un nouveau gouverneur. Au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, les provinces y compris, a pensé le développement d'un peuple qui lui accorderait près de 100% de suffrage à l'élection présidentielle de décembre 2018. Et enfin, au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, doter sa main politique pesante sur le Kasaï central, particulièrement dans l'affaire Kabuya. Le Kasaï central doit vivre. La province attend la réalisation du projet Katende et la finition de la route Kalamambouji sous bassement de son développement.
Alexis Thambo Mwamba plaide pour la sécurisation des membres du bureau du Sénat ainsi que de tous les sénateurs. Dans une correspondance adressée au vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, affaires coutumières, le président du Sénat dénonce une tentative d'enlèvement du questeur de sa chambre dans la soirée du mardi 5 janvier par un groupe de personnes armées. N'ayant réussi à l'enlever, ajoute Alexis Thambo Mwamba, des inspecteurs de la police judiciaire se sont alors présentés au même lieu au motif de lui signifier un mandat d'amener. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Dans sa correspondance d'hier jeudi, le président du Sénat dénonce qu'après le passage des inspecteurs, la garde commise à la sécurité du questeur du Sénat lui a été retirée. Alexis Tambwe Mwamba estime qu'en vertu de l'article 107 alinéa 3 de la Constitution, les poursuites contre un sénateur en période de vacances ne peuvent être possibles qu'avec l'autorisation du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrance. Pour lui, la procédure d'arrestation cavalière des élus du peuple ne contribue pas à asseoir l'état des droits tant prôné par le chef de l'État, mais elle a pour effet la déstabilisation des institutions. Notez que c'est depuis le début de cette semaine qu'une rumeur circule faisant état d'un complot organisé par les questeurs du Sénat pour tenter une éviction du premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga. Le questeur aurait même corrompu les sénateurs pour signer une pétition contre Sami Badibanga. Dans sa conférence de presse hier jeudi, les rapporteurs du Sénat a qualifié cette information de procès d'intention contre les questeurs dans l'objectif de déstabiliser le bureau du Sénat.
Rendons-nous à présent dans la province de l'Ituri où la situation sécuritaire à Lingabo, à l'entrée sud de la ville de Bunia, reste volatile. Jusqu'au petit matin de ce vendredi, des détonations d'armes étaient toujours entendues vers les quartiers police des frontières d'Elé et Ho. L'armée avance un bilan provisoire de 3 miliciens FPIC neutralisés et 6 autres capturés. D'autres sources sécuritaires parlent d'environ 10 morts et des blessés, dont un officier des FRDC. Le point avec Martial Kizabiamungu.
C'est vers 16h locales jeudi que des combats entre le FRDC et des hommes armés identifiés aux miliciens de la FPIC se sont intensifiés à Lingabo. Selon des sources sécuritaires, les forces loyalistes pourchassaient deux miliciens qui s'étaient dissimulés parmi la population dans cette agglomération. Ces hommes armés ont tenté en vain de contourner l'armée pour entrer dans la ville de Bunia. Les porte-paroles de FRDC à l'Ituri avancent un bilan provisoire des deux blessés du côté de l'armée, trois miliciens et et 6 autres capturés. Un assaillant a été grièvement blessé et 2 armes de type AK-47 récupérées par l'armée, ajoute le lieutenant Jules Ngongo. Cependant, d'autres sources sécuritaires affirment la mort d'un soldat et d'un policier du groupe mobile d'intervention Jemi et son armée récupérée par l'ennemi. Les mêmes sources affirment qu'un officier de FRDC a été légèrement blessé par balle. Un camion de FRDC à provenance de Marabo est également tombé dans une embuscade à Lingabo. Les chauffeurs est porté disparu, mais l'engin a été récupéré et acheminé à Bunia. Ce vendredi matin, des détonations d'armes étaient toujours entendues dans la même entité. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
À l'extrême sud du territoire des Fizi au sud Kivu, les FRDC et la police nationale congolaise appelaient à renforcer les patrouilles mixtes chaque jour vers 18h à Mississi et ses environs. Telle est la principale recommandation décidée hier à Mississi à l'issue d'une réunion du conseil local de sécurité. Mississi est une zone d'exploitation minière à forte agglomération située à 132 km au sud de la ville de Baraka dans le territoire des Fizi. Cette réunion élargie aux composantes de la société civile a été tenue sous la direction du chef des secteurs d'Ingandia, Mabou et Barabara, avec un seul point à l'ordre du jour, le contexte sécuritaire dans cette entité. Fiston Goma.
Hier jeudi dans la matinée, un présumé voleur à main armée est mort tué par la population en colère à Mississi. La victime a été attrapée par des jeunes qui l'ont brûlé vif avant l'intervention de la police. 6 personnes ont été interpellées, mais dans l'après-midi, une tension a été signalée entre la police et la population qui exigeait la libération de ces hommes. La police les a dispersés. Le même jour, la nuit vers 21h, un militaire de FRDC au grade de capitaine en service au département de sécurité des frontières est mort tué par balle par des hommes armés non identifiés à Mississi. Mercredi, des hommes armés non identifiés ont attaqué un site minier aurifère à Nyangé au sud de Mississi. Les assaillants ont volé de l'or, de l'argent et 8 détecteurs d'or à la pointe de leurs armes. Les bandits ont blessé 3 marchands d'or avant de disparaître dans la nature. Mardi dernier, un corps sans vie d'un agent de transfert de devises M-Pesa Vodacom a été retrouvé dans un ravin au village de Nyangé, non loin de Mississi. La victime avait été enlevée par des hommes en armes non identifiés. Duvira Fiston Goma Mayaba, la Radio Kapi.
19h09 au quartier Ndosho. Ndosho, c'est un quartier, comme je l'ai dit, de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, où 2 autres personnes ont été tuées la nuit dernière. C'était par des bandits armés non encore identifiés. Selon les autorités locales, la police qui est intervenue est tout de même parvenue à neutraliser un des suspects. Bernard Denyangi.
C'était entre minuit et 1h du matin, la nuit dernière, que des bandits inconnus ont opéré dans deux avenues du quartier Ndosho, indiquent les sources administratives locales. Ces bandits ont tiré sur un homme âgé d'environ 35 ans, pasteur d'une église protestante locale, sur l'avenue Roissama. Ils ont aussi tiré sur un jeune garçon d'environ 17 ans, sur l'avenue Renga. Les deux victimes sont mortes sur le coup. Ces sources ajoutent qu'un centre médical local a aussi été cible d'une incursion d'hommes armés pendant les mêmes heures dans ce quartier où des malades et infirmiers de garde auraient été torturés et leurs téléphones et argent emportés. Un des présumés auteurs de ces attaques a été neutralisé par les éléments de la police venus en intervention après l'alerte de la population. Selon les sources de la police ville, l'arme de ce dernier a été saisie avec des munitions, mais il est décédé à l'hôpital provincial quelques temps après. Rappelons que le quartier Ndosho est depuis le mois d'octobre 2020 victime d'attaques récurrentes d'hommes armés qui ont causé la mort d'une dizaine de civils, d'autres kidnappés et des biens de valeur emportés. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Au sud Kivu voisin, les usagers des lacs passant par le parc national des Kahuzi-Biega se plaignent des tracasseries exercées sur eux par les éco-gardes. Chaque passant est obligé de payer entre 1000 et 2000 francs congolais à l'aller comme au retour, sous prétexte qu'ils auraient plus de 10 mois impayés. Le mouvement citoyen Observatoire d'action parlementaire et gouvernementale dénonce cette pratique dans sa lettre adressée au chef des sites de PNKB le 5 janvier dernier. Nous avons donc rencontré Dédieu Biaombe, directeur du PNKB, ce vendredi 8 janvier. Il promet son implication personnelle en sanctionnant tous ceux qui dérangent la paix de la communauté. Il est au micro de Rachel Kessembangou.
Je remercie l'ONG qui a dénoncé, il faut toujours dénoncer. Mes analyses commencent par comprendre qu'est-ce qui est appelé tracasserie. Il est vrai qu'à Tshivanga, il y a une barrière et cette barrière nous sert pour le contrôle du trafic des produits de forêt et tout ce qui est activité illégale par rapport au parc. Et cette barrière a son sens pour être à l'entrée et à la sortie du parc. Mais quand on commence à rançonner, là, il peut avoir raison de dire tracasserie. Et je prends bonne note, sincèrement, je peux les rassurer. S'il y en a, on mettra fin. On va punir ceux qui sont à la base de ces activités qui ne sont pas dignes d'une grande aire protégée comme Kahuzi-Biega et les éco-gardes qui se donnent à cette tracasserie, on va les sanctionner puisque nous ne pouvons pas cautionner la paix de la communauté. Si nous protégeons, c'est pour le bonheur de cette population, cette communauté. Je peux dire avec satisfaction aujourd'hui qu'il n'y a plus un problème de 10 mois. Cette prime a connu un retard. Nous félicitons nos partenaires. Ils ont payé les 10 mois. Je pense qu'il n'y a plus raison que les éco-gardes, y compris moi-même, nous n'avons plus raison de dire que nous ne pouvons plus travailler puisque nous n'avons pas reçu cette prime.
Revenons à cette suite de notre enquête sur des présumés détournements des fonds au Centre d'expertise et d'évaluation des substances précieuses et semi-précieuses, CEC. Près de 2 milliards de dollars échappent au trésor public chaque année dans le secteur de l'or. Cela est dû au sous-équipement et à la magouille organisée au niveau du Centre d'expertise et d'évaluation et certification des substances précieuses et semi-précieuses, CEC. À en croire un mémo des travailleurs du CEC, plus de 30 tonnes d'or quittent clandestinement le pays sans être certifiées par le Centre Michel Kifindangoy.
D'après un groupe de travailleurs de CEC, malgré plus de 3 millions de dollars de frais de fonctionnement mis à la disposition chaque année au CEC, le comité de gestion néglige délibérément de doter leur structure des laboratoires appropriés pour procéder aux analyses de manière à avoir avec précision et exactitude les vraies teneurs de l'or produit en RDC. Par manque des laboratoires, le CEC fait perdre à l'État plus ou moins 30 tonnes par an d'une valeur d'1,5 milliard de dollars d'or non tracé à travers le pays par la fraude, peut-on lire dans le mémo des travailleurs. Un directeur du CEC affirme sous couvert d'anonymat que le comité de gestion est plus focalisé à la collecte des échantillons d'or destinés à des analyses. Ces échantillons qui devraient revenir à l'État congolais sont régulièrement vendus par la direction du CEC et l'argent détourné dénonce un directeur. À titre d'exemple, le personnel du CEC renseigne que le comité de gestion a vendu 5 kilos d'or d'échantillons de Kibali en 2019 et a exporté à la même année 17 kilos d'or, ce qui aurait occasionné une perte de plus de 500 millions de dollars au trésor public.
Notons que dans une vidéo publiée hier jeudi sur les réseaux sociaux, le directeur général du CIC affirme que le parquet n'a aucun dossier sur le détournement les concernant. Pascal Niembo regrette que des questions sur le décret portant création du CIC et sur sa nomination lui soient posées. Ce sont des questions liées à la présidence et à la primature, mais on vient me les poser, s'est-il exclamé.
Actualité internationale.
Un couvre-feu a été décrété ce jeudi 7 janvier sur l'ensemble du territoire centrafricain de 20h à 5h en raison de la situation sécuritaire. Juste avant les élections présidentielles et législatives du 27 décembre, une coalition des groupes armés a repris les hostilités déclarant marcher sur Bangui. Depuis, des incidents éclatent régulièrement dans l'ensemble du pays. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a interdit vendredi l'importation des vaccins anti-coronavirus fabriqués aux États-Unis et au Royaume-Uni, estimant que ceci pourrait servir à contaminer son pays. Il est interdit d'importer des vaccins faits aux États-Unis ou au Royaume-Uni. On ne peut absolument pas leur faire confiance. Il n'est pas impossible qu'ils veuillent contaminer d'autres nations, a indiqué un message de l'ayatollah Khamenei sur son compte Twitter en anglais.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, les autorités provinciales viennent de mettre en place une brigade provinciale d'assainissement dénommée Union Sacrée d'Assainissement. Elle a été lancée officiellement mercredi dernier par le vice-gouverneur des provinces, Maurice Abibou Sakapela. Qu'est-ce qui explique la création de cette brigade alors qu'il en existe déjà une autre au niveau urbain? Comment les deux brigades vont-elles travailler sur terrain? Le vice-gouverneur de la province de Tchopo, Maurice Abibou Sakapela, s'entretient avec Jacques Mokonkole.
Monsieur le vice-gouverneur des provinces, bonjour.
Bonjour Jacques.
Vous venez de mettre en place une brigade provinciale d'assainissement que vous avez dénommée Union Sacrée d'Assainissement. Votre entité, la Tchopo, en a-t-elle réellement besoin?
Oui, la Tchopo a tellement besoin de cela parce que le gouverneur de province, son excellence Maître Louis-Marie Walelo-Fungula, qui a fait un constat que tous les efforts pendant plus d'une année de gestion et qu'il a fourni pour appeler les gestionnaires des entités de base à l'assainissement et de la ville de Kisangani et de l'arrière-province. Et il a constaté que malgré ses efforts, la ville reste dans un état d'insalubrité et qu'il faudrait des nouvelles stratégies pour sortir la ville de Kisangani ainsi que les chefs-lieux des différents territoires dans cet état d'insalubrité.
Monsieur le vice-gouverneur, comment pouvez-vous expliquer cette dénomination ? Union Sacrée d'Assainissement.
Vous savez, actuellement, c'est une façon de donner une réponse positive à l'appel du chef de l'État qui voudrait assez que tout le Congolais regarde dans la même direction et que l'esprit de solidarité ou d'union puisse reposer sur la bonne gouvernance. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons bien voulu dénommer cela comme Union Sacrée d'Assainissement.
Pourquoi une nouvelle brigade d'assainissement alors qu'il en existe déjà une au niveau urbain patronnée par le maire de la ville? Y a-t-il des tâches spécifiques à assigner à chaque brigade? Sinon, comment vont-elles s'y prendre sur le terrain?
Au niveau provincial, cette brigade sera coordonnée par le gouverneur de province lui-même. Au niveau de la ville de Kisangani, cette brigade sera coordonnée par le maire de la ville. Nous avons bien voulu donner l'impulsion parce que nous avons constaté que les brigades qui sont au niveau de chaque commune et au niveau même de la mairie de Kisangani ont donné leurs limites et qu'il faille une solidarité, une conjugaison des efforts d'un grand nombre pour essayer de sortir la ville de Kisangani, aussi les chefs-lieux de chaque territoire, dans cet état d'insalubrité. Et donc, il y aura des tâches spécifiques, c'est-à-dire le maire de la ville va travailler en collaboration avec le bourgmestre des 6 communes ainsi que la collectivité sectaire de Lubuyabera. Chaque entité donne 10 éléments et la mairie donne 20, ça fait 100 unités et ils doivent, au niveau de chaque commune, déterminer les axes qui nécessitent l'apport de la solidarité des autres et ils vont établir un chronogramme de travail pour essayer de donner la réponse à la question posée, c'est-à-dire l'insalubrité. Et donc, voilà la manière dont nous attendons faire fonctionner cette brigade que nous dénommons Union Sacrée d'Assainissement.
Est-ce que les moyens sont disponibles? Je vais parler ici des ressources matérielles, même financières.
D'abord, la mairie de Kisangani a hérité de matériel aratoire du fonds social, ça vous le savez. Pour le problème de matériel, ça ne se pose pas. Mais pour le problème de motivation du personnel, nous nous sommes convenus avec le bourgmestre des communes que chaque commune comme il paye au quotidien ses ouvriers, il va commencer à prendre en charge les membres de l'Union sacrée qu'ils ont envoyés au niveau de la mairie. Et le gouverneur de province va aussi s'y plier chaque fois qu'il s'agit des grands travaux pour essayer de motiver correctement les personnels. Et donc nous pensons que au niveau des matériels et au niveau de motivation, il ne se posera pas un problème si nous travaillons en parfaite harmonie avec les communes.
L'insalubrité est aussi décriée dans l'arrière-province, monsieur le vice-gouverneur. Est-ce que cette brigade pourra se déployer aussi au niveau de l'intérieur?
Au niveau de chaque chef-lieu du territoire, nous envisageons mettre sur pied cette brigade et cela, ça va fonctionner avec l'appui de chefferies et secteurs qui sont des entités territoriales décentralisées et qui ont des recettes et qui bénéficient aussi des rétrocessions du gouvernement central. Et donc, dans un premier temps, commencer à assainir le chef-lieu du territoire parce que nous avons fait le même constat. Donc, il y a l'insalubrité dans le chef-lieu du territoire, les différences chefferie et secteur vont devoir se mettre en branle pour donner le moyen ainsi que le personne pour que la haute intensité de la main d'œuvre puisse travailler. Vous vous rappellerez que à l'époque coloniale, nous avions des routes, de desserte et qui étaient entretenues sous ce système de la haute intensité de la main d'œuvre. Et je crois que nous pensons relancer cela au niveau de l'arrière-province et dans le cadre de l'Union sacrée d'assainissement provincial.
Monsieur le vice-gouverneur de province, merci.
Merci, Jacques.